Bonjour, Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver pour parler avec vous de musique classique. Et aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre d'être ensemble pendant une heure avec une œuvre emblématique, une œuvre que j'aime particulièrement, mais que j'espère aussi vous aimerez. C'est la fameuse messe dite du couronnement de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est une œuvre que l'on peut qualifier déjà de la maturité de Mozart, même s'il n'avait que 25 ans lorsqu'il a écrit cette très belle œuvre. Il faut dire que Mozart est dans une difficulté morale très forte. Il est revenu à Salzbourg après le décès de sa mère qui l'avait accompagné à Paris. Et Mozart ne veut plus travailler pour le compte du prince archevêque Colloredo de Salzbourg. Il n'en peut plus, il trouve que c'est un dictateur et il n'a qu'une idée en tête, c'est quitter à nouveau Salzbourg. Seulement voilà, il est presque chargé de famille, il a son papa qui lui a demandé expressément de rester, et puis il y a aussi sa sœur Anna Maria dont il faut s'occuper. Mais Mozart, à 24 ans, que voulez-vous, il a plutôt des rêves de gloire et il veut partir absolument de Salzbourg. Pour l'instant, il n'est encore qu'un domestique, c'est le statut des musiciens au XVIIIe siècle, et il doit allégeance en quelque sorte au prince archevêque Sigismond von Colloredo. Seulement voilà, entre les deux hommes, le courant ne passe pas. Le prédécesseur, le premier prince archevêque, avait adoré le jeune Mozart, l'avait véritablement aimé, lui avait donné toutes les chances pour réussir. Et Mozart y avait cru. À 14-15 ans, il avait été reçu par Louis XV, il avait été reçu par le roi d'Angleterre, il avait été décoré par le pape. Et donc, il s'imaginait qu'il était devenu libre. Mais malheureusement, lorsque le prince archevêque Sigismond von Schrattenbach décède, c'est un nouveau archevêque qui va arriver et lui, il va mener en quelque sorte la vie dure à Mozart. Et on le sent dans la tristesse du compositeur. Et dans ces années 1778-1779, eh bien, je dirais que Mozart fait en quelque sorte une dépression. Sauf que, et c'est ça finalement, la gloire et la grandeur des génies, eh bien, ça n'influe pas véritablement cette grande tristesse sur sa musique. Et c'est ainsi qu'il va composer donc en 1779 cette fameuse messe en ut majeur, qui porte, pour ceux qui connaissent un peu Mozart, le Kechel 317. Ça veut tout simplement dire que c'est déjà la 317e œuvre d'un musicien qui, je le rappelle, n'a pas encore 25 ans. C'est une messe classique, hein, qui respecte, je dirais, toute l'orthodoxie de la messe. Il y a donc 6 sections, un Kyrie, un Gloria, un Credo, un Sanctus, un Benedictus et un Agnus Dei. Là, on respecte parfaitement les canons de la messe. Alors, je vous propose de rentrer progressivement dans cette œuvre en écoutant tout de suite le début de cette fameuse messe du couronnement, le Kyrie, où, je vous le rappelle, on se reconnaît pécheur, où on demande pardon à Dieu, pardon à Jésus sur les péchés que l'on a commis, afin par la suite de pouvoir communier. Donc tout de suite, je vous propose d'écouter dans une version de référence, puisque c'est le chœur du Singverein de Vienne, c'est l'orchestre philharmonique de Berlin, placé sous la direction d'Herbert von Karajan, qui nous fait entendre cette magnifique messe dite du couronnement de Mozart. Voilà le début de cette très belle messe dite du couronnement de Mozart dans une version, me semble-t-il, de référence avec, je vous le rappelle, les chanteurs du Singverein de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, et nous allons entendre, retrouver donc toute une série de quatre solistes que sont d'une part la soprano Anna Tomova-Sintov, la contralto Agnès Balza, le ténor Werner Krenn et enfin la basse José Van Damme. C'est véritablement une distribution de rêve lorsque l'on est aussi intéressé par la musique sacrée que l'était Karajan. Eh bien, il choisissait toujours, évidemment, avec beaucoup d'attention, ses chanteurs. Alors, pourquoi appelle-t-on cette messe la messe du couronnement? Ça n'a rien à voir avec un événement historique ou un événement politique. Ça n'est pas du tout le couronnement d'un souverain. Ça n'est pas non plus pour un anniversaire de roi. Non, c'est beaucoup plus simple que cela. Près de Salzbourg, il y avait une très belle basilique qui était une sorte de basilique où on allait prier la Vierge. À Mariaplein, ça s'appelait. Et donc, régulièrement, après la Pentecôte, on avait l'habitude de couronner la statue de la Vierge. Et c'était généralement des paysans de la région de Salzbourg qui apportaient des couronnes de fleurs que l'on mettait sur la statue de la Vierge. Et c'est pour ça donc que l'on a ce titre qui rappelle aussi à la fois l'attachement profond de Mozart pour une sorte de piété familiale et justement ce côté très simple, puisque ce sont encore une fois des paysans qui viennent rendre grâce à la Vierge Marie. Alors c'est une messe qui est encore une fois extrêmement belle et qui, me semble-t-il, ne reflète absolument pas le désespoir, la détresse dans laquelle se trouve Wolfgang Amadeus Mozart au cours de cet été 1779. Je vous l'ai dit, il est vraiment très mal, il ne supporte plus le prince archevêque Colloredo et n'a qu'une idée en tête, partir. Il partira d'ailleurs peu de temps après avoir composé cette messe puisqu'il ira d'abord à Munich pour créer un nouvel opéra qui s'appelle Idoménée. De là, il ira à Vienne et c'est à Vienne qu'il recevra, pardonnez-moi, ce fameux coup de pied au cul qui lui a permis de devenir totalement indépendant. Je le dis souvent parce qu'on ne se rend pas compte, mais au XVIIIe siècle, un compositeur, c'est un domestique qui est rattaché à la maison d'un prince, d'un seigneur, d'un gouverneur, et qui lui doit totalement obéissance. Et donc imaginez qu'en 1781, un jeune homme de 25 ans va oser donner sa démission à un roi, puisque le prince archevêque de Salzbourg, c'est véritablement le roi de sa principauté. Et c'est là où on voit tout le courage de Mozart qui va devenir le premier musicien indépendant de toute l'histoire de la musique. Mais revenons à cette année 1779. Pour l'instant, je dirais, la colère est en train de couver, le feu est en train de grandir, et quelques mois plus tard, donc, Mozart donnera sa démission au prince archevêque. Mais pour l'instant, il lui doit d'écrire cette messe et c'est ainsi que nous allons continuer. Après ce Kyrie qui était en andante et qui était quelque chose de tendre, de calme, puisque je rappelle qu'on demande pardon au Seigneur, eh bien nous allons avoir maintenant quelque chose de plus affirmatif, un Allegretto où il est question bien sûr du Gloria. Après s'être rendu compte qu'on était pécheur, eh bien on rend grâce à Dieu en chantant sa gloire.
Oh,
Voilà la deuxième section de cette fameuse messe du couronnement de Mozart qui porte, je vous le rappelle, le Kechel 317. Autrement dit, c'est la 317e œuvre. Rappelez-vous quand même que Mozart n'a que 24 ans à l'époque et qu'il est donc encore une fois atteint par la grâce. C'est vrai que dans cette messe du couronnement, c'est une messe finalement qui est assez simple puisqu'elle est destinée à un public, on va dire, assez agricole, assez rural, qui ne veut pas s'embarquer dans des combinaisons trop profondes. Et Mozart est toujours très attentif aux personnes pour lesquelles il écrit. Et donc, il y a dans ce très très beau Gloria quelque chose d'assez intime, puisqu'on rend grâce à Dieu et on est en quelque sorte en admiration devant la Vierge Marie. C'est pour ça que c'est une messe qui est à la fois joyeuse et qui est relativement simple dans l'écriture. Bien que Mozart fait appel à un orchestre complet avec tous les vents par deux, deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux cors, etc. Mais c'est véritablement une œuvre qui est fluide. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est sans doute une des messes les plus célèbres et les plus appréciées de Mozart. Dans la troisième partie, celle que nous allons entendre, qui est le credo, là on est beaucoup plus dans l'affirmation de la foi, et c'est là où Mozart est capable de mettre un peu de théâtralité dans cette messe, parce qu'on comprend bien tout ce qui se passe. Lorsqu'on affirme qu'on croit en un seul Dieu, et que voilà, on veut la gloire du Seigneur, à un moment donné on va évoquer l'enfant qui s'est incarné en quelque sorte, le Verbe a pris cher avec l'enfant Jésus-Christ. Et là, on a véritablement un passage qui est très très doux, puisque ça symbolise évidemment l'enfance. Puis on va malheureusement évoquer aussi la mort du Christ sur la croix. Donc là, ça va être quelque chose de sombre, de triste. Et puis brutalement, il va y avoir comme un soleil pour dire qu'il est ressuscité conformément aux Écritures au troisième jour. Donc je crois que vous connaissez tous votre credo, en tout cas je l'espère, mais on se rend compte avec Mozart que il y a cette volonté d'expliquer véritablement ce qu'est la prière à travers la musique. C'est pour ça aussi, je crois que cette messe est véritablement très célèbre parce que elle est, on va le dire vite, un tout petit peu théâtrale. Mais parce que à cette époque-là, Mozart est très tourné vers l'opéra. Il a envie d'écrire des opéras parce que c'est le genre musical qui permet à tous les compositeurs de devenir célèbres dans l'Europe entière. Tant qu'on n'a pas écrit d'opéra, on n'est pas considéré comme un grand compositeur. Et Mozart, il a déjà écrit une douzaine d'opéras, mais ce sont des petits opéras qui ont eu leur succès en leur temps. Et là, il est en train déjà de penser au premier de ses grands opéras qui s'appelle Idoménée, qu'il va créer quelques mois plus tard à Munich au cours du carnaval de Munich. Donc vous voyez, Mozart est tourné vers l'opéra et on le sent en quelque sorte un peu dans cette très belle messe. Alors je vous propose de retrouver bien sûr Anatomova Sintov, Agnès Balza, Werner Krenn, José Van Damme, les chœurs de Vienne et l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan pour ce magnifique credo où là on sent toute le côté vraiment théâtral de cette messe, mais théâtral encore une fois avec la foi véritable que possédait Mozart.
Thank you.
Voilà ce magnifique credo qui témoigne encore une fois non seulement de la foi de Mozart, mais bien sûr de ceux qui allaient à cette messe lors du couronnement, je le rappelle, de cette statue de la Vierge. Alors, je tiens aussi à vous préciser que ça n'est pas un concert, que cette messe, c'est bien une véritable messe, et qu'encore aujourd'hui, lorsque par exemple vous avez la chance d'aller à Vienne, eh bien, dans l'église des Augustins, il y a des messes qui sont toujours jouées avec chœur et orchestre pendant la messe. C'est-à-dire que le commentaire de la messe se fait à travers cette musique. Le prêtre intervient relativement peu. Le regret qu'on peut avoir, c'est que finalement, on ne chante pas, la foule ne chante pas, mais on écoute finalement les paroles de la messe à travers les chœurs et l'orchestre. Donc, une fois qu'on a affirmé sa foi avec le credo, eh bien, on va rentrer dans la partie plus intime de la messe. C'est pour ça que vous allez entendre tout de suite le changement de tonalité. On va bien sûr vers le Sanctus et le Benedictus, et là, on retrouve le côté très intimiste de cette magnifique musique. Et on a du mal à imaginer que Mozart est vraiment très mal à cette époque-là. Il est véritablement, je vous l'ai dit, dans un désespoir profond. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne le ressent absolument pas quand on écoute sa musique. On est véritablement bercé par cette prière au Seigneur, avec ce Sanctus et ce Benedictus que l'on attend avec impatience. Donc c'est véritablement là le cœur, me semble-t-il, de la messe. Et on retrouve justement cette très belle intimité de la messe, avec encore une fois, pour ceux qui connaissent un peu leur Mozart par cœur, un appel à l'opéra. On a souvent, et je trouve pour ma part que c'est vrai, comparé ce Benedictus qui est chanté par la soprano au premier air de la Comtesse des Noces de Figaro. C'est vrai qu'il y a une grande parenté, sauf qu'il va falloir attendre 6 ans avant que Mozart reprenne en quelque sorte ce thème, mais il y a une véritable parenté entre le premier air de la comtesse dans les Noces de Figaro, lorsqu'elle pleure finalement son amour perdu, eh bien, c'est presque ce qu'on entend déjà également dans le Benedictus que nous allons retrouver dans quelques instants. Donc tout de suite, nous partons à nouveau dans cette très belle messe dite du couronnement de Mozart, en écoutant maintenant le Sanctus et le Benedictus.
Thank you.
Voilà, nous venons d'entendre successivement le Sanctus et le Benedictus, toujours extrait bien sûr, de cette fameuse messe dite du couronnement de Mozart, qui porte le Kechel, autrement dit le numéro 317. Je rappelle que nous sommes sur Radio Fidélité, que nous entendons la totalité de cette très belle messe composée par Mozart, alors qu'il était entre guillemets en captivité, c'est lui qui le disait bien sûr, à Salzbourg. Il n'avait que 24 ans, mais il était au service du prince archevêque, et il se devait d'écrire des œuvres, mais cette messe-là, c'est véritablement Mozart qui a eu envie aussi de participer à cette adoration de la Vierge. Alors nous allons terminer cette messe comme il se doit par la fameuse communion, l'Agnus Dei, où là, je vous l'ai dit, vous allez retrouver le côté lyrique de Mozart, cette recherche un peu de l'opéra, mais qui lui fait trouver des mélodies qui sont absolument magnifiques. Et cette messe, véritablement, est tout de suite entrée dans l'histoire, même si au départ Mozart n'a pas pu voir le succès de cette messe, puisqu'il réussissait à s'enfuir, si je puis dire, à Munich, puis vivre à Vienne après avoir composé cette œuvre. Très vite, elle est devenue une des messes, il faut bien le dire, les plus jouées de Mozart. Et encore aujourd'hui, lorsque vous allez dans beaucoup de villes, eh bien, on vous interprète à juste titre cette fameuse messe du couronnement. Donc je vous propose de retrouver pour la dernière section, celle de l'Agnus Dei, cette très belle messe du couronnement de Mozart dans une distribution de rêve, puisqu'elle est, je vous le rappelle, dirigée par Herbert von Karajan. On écoute successivement le fameux Agnus Dei, où on parle bien sûr de l'agneau de Dieu. Et puis vous verrez, il y a un temps assez long qui est consacré finalement à la dernière parole, hein, le fameux « Dona nobis pacem », autrement dit « Donne-nous ou donnez-nous la paix ». Bien là, Mozart insiste, peut-être parce que lui aussi, il a envie de retrouver cette paix intérieure qu'il a perdue. Et c'est une section qui, en termes de parole, est très courte. Hein. Il est simplement dit « Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde, ayez pitié de nous, agneau de Dieu, donnez-nous la paix ». Ça n'est uniquement ça qui est chanté, mais vous allez voir que Mozart est capable de le développer, peut-être lui aussi, comme une sorte de prière à la Vierge. Voilà la conclusion de cette très belle messe dite du couronnement de Wolfgang Amadeus Mozart, interprétée, si je vous le rappelle, par les chœurs du Singverein de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction d'Herbert von Karajan, avec comme soliste soprano Anna Tomova-Sintov, contralto Agnès Balza, ténor Werner Krenn et enfin basse José Van Damme. C'est une très belle œuvre qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Alors nous allons continuer puisqu'il nous reste un petit peu de temps ensemble. Nous allons rester avec Mozart et je vous propose d'écouter une autre œuvre qui est à peu près contemporaine de cette messe du couronnement. On est un petite année plus tard. Mozart est toujours révolté, Mozart n'en peut plus, Mozart déteste, il le met dans une lettre « Je hais l'archevêque jusqu'à la frénésie ». Ça n'est pas très chrétien, mais ça montre à quel point le jeune homme ne veut plus rester à Salzbourg. Et pourtant, je vous l'ai dit, c'est un domestique qui doit allégeance au prince. Le prince lui a commandé des vêpres solennelles d'un confesseur et Mozart va s'exécuter. Et ce que je dis toujours, ce qui est merveilleux chez le compositeur, c'est que bien qu'il soit malheureux, bien qu'il déprime véritablement, la musique de Mozart ne semble pas être touché par la tristesse de Mozart. Quand il doit écrire une musique joyeuse, eh bien, il l'écrira de manière joyeuse. Alors, qu'est-ce que c'est que des vêpres solennelles d'un confesseur? C'est quoi un confesseur? Eh bien, c'est tout simplement un saint qui n'est pas mort martyr. Il y a des gens, en général un saint, il faut qu'il meure en tant que martyr. Un confesseur, c'est un confesseur de la foi, c'est quelqu'un qui va mourir pour sa foi, mais qui ne mourra pas en martyr. Alors il y a comme ça des saints que l'on doit honorer régulièrement, et le prince archevêque voulait des vêpres solennelles d'un confesseur, et c'est ainsi que Mozart va s'y prendre. Il écrit, comme le veut la règle, 6 sections, 5 sections qui font appel à des psaumes et puis on termine sur quelque chose de plus joyeux et je vous propose donc d'écouter le début de ces vêpres solennelles d'un confesseur. Si rappelez-vous, la messe du couronnement portait le numéro 317, eh bien ces fameuses vêpres solennelles d'un confesseur portent le Kechel 339, donc vous voyez à peu près, il y a 20 œuvres entre cette fameuse messe du couronnement et ces vêpres solennelles du confesseur. On va écouter le début, le Confitebor, où il est question bien sûr de la foi que l'on a en Dieu. Et c'est une œuvre, là, vous allez le voir, qui commence de manière relativement solennelle, parce qu'encore une fois, c'est une fête extrêmement importante. Et n'oublions pas quand même que le seigneur de Salzbourg, bien qu'il fût prince, était également et surtout archevêque, voire même cardinal. Donc lorsqu'il devait donner la messe ou participer à une cérémonie religieuse, la musique, évidemment, devait avoir beaucoup d'ampleur. Et là, il ne se trompait pas quand il se tournait vers son domestique, le jeune Mozart, qui bien sûr devait écrire des musiques absolument merveilleuse. Donc c'est une œuvre de commande, mais c'est une œuvre quand même dans laquelle on ressent toute la science, toute la foi et finalement toute la grandeur de Mozart.
Thank you.
la deuxième section de ces fameuses vêpres d'un confesseur. Alors les vêpres, c'est normalement 6 sections. 5 sections, je vous l'ai dit, qui renvoient à des textes des psaumes de l'Ancien Testament. Là, c'était le deuxième psaume, c'est-à-dire le Confitebor. Nous allons entendre le 4e psaume, ou le 5e, pardon, qui est le Laudate Dominum, qui est pour moi une des plus belles œuvres de Mozart. Et comme toutes les vêpres, eh bien, ça se termine bien sûr par le fameux Gloria Patri et je dirais le Magnificat de l'Évangile selon Saint Luc. C'est obligatoirement comme ça que doit être organisée les vêpres. Alors, je vous propose d'écouter justement ce qui pour moi, elle est vraiment un des plus beaux airs de Mozart. Je redis, il est dans pleine déprime, il ne sait plus quoi faire, il doit obéir à son prince archevêque et il répond à une commande et pourtant il écrit des œuvres absolument sublimes comme ce fameux Laudate Dominum. Il faut louer le Seigneur toujours et partout, c'est ce que va dire la très belle voix de soprano et je trouve que là on a ce qui fait véritablement le génie de Mozart, c'est une musique excessivement simple. C'est un peu comme une berceuse, avec un texte qui est chargé émotionnellement. Vous vous rendez compte, vous dites que vous remerciez le Seigneur toujours et partout, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous souffriez, quelle que soit votre peine, vous remerciez le Seigneur parce que c'est la vérité du Seigneur. Alors heureusement, à la fin, eh bien, on va avoir un magnifique Amen qui va monter vers le ciel et qui montre, là encore une fois, combien Mozart est attaché au texte et comment il peut prendre du recul par rapport à sa propre existence. C'est vraiment pour moi, c'est une perle que cet extrait de ses vêpres personnelles du confesseur, ce Laudate Dominum est pour moi véritablement une des plus belles pages musicales de Mozart et pourtant elle est très peu connue, ce qui est dommage. Alors aujourd'hui, avec vous, sur Radio Fidélité, eh bien on va découvrir ou redécouvrir, pourquoi pas, ce fameux Laudate Dominum, louons le Seigneur toujours et partout, extrait de ses vêpres solennelles du confesseur de Mozart.
Thank you.
Voilà ce très bel extrait donc des Vêpres solennelles d'un confesseur de Mozart. Le numéro de Kechel, je vous le rappelle, c'est le 339. Et nous venons d'entendre la cinquième section sur les six qui s'appelle le fameux Laudate Dominum. Alors je voudrais vous donner la distribution de cet extrait parce que ça fait partie de l'église des Augustins de Vienne. Si un jour vous avez la chance d'aller un week-end à Vienne, je vous le conseille, à la Hofburg, le fameux palais impérial, on peut pas le louper, il est en plein cœur de Vienne. Eh bien, sur le côté, il y a plusieurs églises à la cour et il y a l'église des Augustins. Et il y a tous les dimanches matins, de 11h à midi, vous avez toujours une messe chantée. Toujours avec chœur, orchestre, soliste. C'est une messe, je vais le dire, c'est un concert gratuit. Vous alliez les deux plaisirs, vous allez à la messe et vous avez un très beau concert. C'est gratuit, c'est tous les dimanches matins. Moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Vienne. J'en reviens depuis dimanche dernier, j'y étais justement. Et j'y retournerai dans peu de temps. Et je vous promets que j'irai à l'église des Augustins parce qu'il y aura notamment, je le sais, dans une dizaine de jours, une très belle messe de Schubert. Donc, tous les dimanches matins, c'est gratuit. Il y a cette messe qui est donnée avec le chœur et l'orchestre Saint-Augustin. Et vous venez d'entendre ici Anna Pucher-Rosado, soprano, Lorenza Espina, Alexander Kambacher et Clemens Zander, qui étaient également les chanteurs de cette vêpre solennelle d'un confesseur. Et l'orchestre de l'église de Saint-Augustin était dirigé par Robert Riedel. Comme il nous reste un tout petit peu de temps, eh bien on va se séparer sur une des œuvres ultimes de Mozart. Là, on était plutôt dans la jeunesse. Mozart avait 25-26 ans. Là, on va l'écouter dans sa dernière année. C'est une très belle œuvre. Mozart va mourir quelques semaines plus tard. Il ne le sait pas, évidemment, bien sûr. Et il écrit ce très bel Ave Verum. Mozart, qui était dans la difficulté financière, recherchait un poste comme organiste à la cathédrale de Vienne. Et pour prouver qu'il était encore un compositeur religieux, il a écrit cette très belle prière très courte, l'Ave Verum. On est devant le corps du Christ qui est descendu de la croix et c'est une sorte d'hommage qu'on lui rend. C'est un texte très beau, très court, très bouleversant et qui montre là encore à la fois la foi de Mozart et surtout son immense capacité à écrire une œuvre simple sur une parole très importante puisque je vous le rappelle, on est en train d'adorer le Christ mort. Terminer cette émission consacrée à la messe du couronnement et à d'autres œuvres de Mozart, eh bien, je vous rappelle que nous venons d'entendre ce magnifique Ave Verum de Mozart, interprété ici par les chœurs et l'orchestre de l'église Saint-Augustin de Vienne sous la direction de Ottokar Prochaska. On se retrouve très bientôt. J'étais heureux d'être avec vous en compagnie de Mathieu à la technique et je vous dis à très vite sur Radio Fidélité.